Bonjour.
Une première heure exclusivement musicale, Aurélie Sfèze, car à nos côtés sera présent un autre groupe à découvrir.
Et dans la seconde heure, Alexandre, la petite bande recevra qui ?
Un autre invité, faisant la scène culturelle du moment, et vos nuits s'ouvriront ainsi car...
De toute façon, pour y voir clair, il faut rester ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Tous les soirs, à partir de 21h.
Sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signe d'une croix. Victor Hugo. Ces quelques phrases pour souhaiter qu'aujourd'hui et demain, nous transmettions à nos enfants, nos élèves, des valeurs de progrès, de justice, d'égalité, d'humanisme, qui fassent d'eux des citoyens libres, heureux et éclairés pour agir et vivre dans le monde actuel. Voilà, une bonne rentrée à toutes et à tous, auditeurs de là-bas si j'y suis, élèves, enseignants, personnel Atos, parents. Voilà, à bientôt.
Bonjour à tous. Moi aussi, je me suis fait la belle. J'étais taxi à Paris pendant 30 ans et depuis... 4 ans bientôt, je me suis installé en Périgord noir, une des plus belles régions de France. Et ben, je me suis parti de la prison vers la liberté. Hein. Alors, je dois bien avoir quelques collègues là actuellement qui m'écoutent, boulevard Magenta, sur le périph. Je vous souhaite bon courage les gars, parce que moi, je sais pas des courses que je fais, c'est des voyages dans le Puy-de-Dôme, dans la Gironde, Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Dordogne, bien sûr. C'est des paysages absolument magnifiques, les gens sont vraiment sympas, plutôt décontractés, et franchement, c'est la vie à l'échelle humaine, quoi. Allez, je vous souhaite bien du courage à tous, bye.
Ouais, salut Daniel, j'ai écouté votre émission, enfin la fin de l'émission, hein. Je l'écouterai tout à l'heure en rentrant chez moi, et en fait, moi j'ai l'impression d'être enfermé dehors, il est évident que je suis pas entre quatre murs, mais... Tous les jours, je me demande à quoi ça sert d'aller enrichir un patron, de me faire chier pour un système qui ne m'épanouit pas. Tous les jours, je me dis, il faut que tu te casses, ce système ne m'intéresse plus. Donc voilà, je suis enfermé dehors pour l'instant. Je pense que pour se sentir vivre, il faut aussi bousculer un petit peu les murs. Enfermé dehors. Allez, salut l'équipe.
Ouais, salut Daniel, salut à toute ton équipe, merci pour ton émission. Je vous ai découvert avec les infirmières de Le Jabi, depuis je suis accro. Donc je podcaste au taquet et puis je voulais intervenir concernant la belle. Alors voilà, moi j'ai fait une découverte fantastique, ça s'appelle l'Eurocycle 6. C'est 2850 km de pistes cyclables qui traversent la France, d'ouest en est, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche... et plus loin jusqu'à Budapest. Donc voilà, j'ai décidé d'équiper mon vélo et de me barrer, de me faire la belle samedi. Je me casse, je laisse mon costard de commercial, je jette ma cravate, j'enfile ma tenue de cycliste et je chevauche mon deux roues direction le lac de Constance en Allemagne. 180 km de piste cyclable le long du Rhin. Que du bonheur, qu'il pleuve, qu'il vente, je m'en fous, je me barre.
Bonjour, c'est Paul Ariès, je veux vous parler du deuxième forum national de la désobéissance organisé par le sarcophage et la ville de Grigny dans le Rhône le 29 septembre. Un seul mot d'ordre, nous avons désobéi sous la droite, on désobéira aussi sous la gauche. Trois thèmes cette année, désobéir à la dette avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, désobéir au traité Mercosur avec ATTAC et former les élus à la désobéissance avec le CIDEF. La journée, on réfléchit, le soir... grand banquet et spectacle désobéissant. Allez, n'oubliez pas, le 29 septembre, tous à Grigny pour dire non à Hollande Réou. J'oubliais, l'association Cocopelli vient d'être condamnée par les tribunaux. La ville de Grigny se fera donc receleuse et distribuera aux participants du forum ses graines interdites. Semons des graines de désobéissance. Allez, salut et fraternité.
J'admire l'ardeur combative syndicaliste d'une certaine dame Christine du Limousin, qui est un des piliers de l'émission, mais je crois qu'elle est plutôt du monde des éleveurs, elle est peut-être de la Confédération paysanne, enfin je sais pas, il me semble. Et j'aurais quelque chose à lui signaler, j'habite la même région, et ça serait pas mal qu'elle aille faire un tour dans les entreprises d'imprimerie de la région. Je ne vais pas citer le nom, pour pas porter préjudice aux ouvriers, mais il faut voir dans quelles conditions ils travaillent. Avec l'annualisation, le flux tendu, Figurez-vous qu'on les fait d'un seul coup travailler de nuit, ou 15 heures d'affilée, parce qu'il y a des commandes à assurer. Il y a un bruit infernal, ils devraient mettre des casques et des boules pièces, mais comme il faut qu'ils écoutent les machines, ils ne les mettent pas, ils vont se retrouver sourds avant l'heure. C'est trop petit pour que ces entreprises-là aient un représentant syndical. C'est n'importe quoi. Et alors attendez, que font les inspecteurs du travail? Les inspecteurs de santé. Il paraît qu'ils ont royalement une visite tous les 2 ans quand ils se plaignent d'avoir le nez qui coule. Oh, c'est pas grave. Oui, il y a du boulot. Hein. C'est l'esclavage moderne.
Il y a du boulot, mais enfin, les inspecteurs du travail ne sont pas forcément en cause dans cette histoire. Ils sont, vous le savez, très peu nombreux et très peu soutenus. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, c'est une heure en rapport, en lien avec les messages de là-bas si j'y suis. Qu'est-ce que c'est les messages de là-bas si j'y suis? C'est la possibilité pour les gens, entre guillemets, de s'exprimer. Eh bien, la possibilité pour les gens, entre guillemets, de s'exprimer, ben, ça a une histoire. L'expression de chacun, ça a une histoire. Et c'est une histoire qui est passée par la radio. Et on va voir aujourd'hui par quelle radio c'est passé. Évidemment, c'est passé par la nôtre, par France Inter. Aujourd'hui, encore, la disparité est très grande entre les haut-parleurs, ceux qui savent parler haut, et les gens, entre guillemets, les cadres supérieurs, représentent 79% des personnes qui prennent la parole dans les programmes de la télévision française, alors qu'ils constituent 5% de la population totale. Vous le saviez, ça? Eh bien, c'est les chiffres produits par le baromètre de la diversité à la télévision, publié par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Baromètre de la diversité à la télévision, ça peut être le baromètre de la diversité à la radio, sur la radio nationale. 79% de cadres supérieurs. On est loin de la parité sociale, de la parité sociologique. Eh bien, on a lutté contre ça dans les années 70. On a lutté pour que les sans-voix prennent leur place, pour écouter les autres, pour écouter les gens de peu, les gens ordinaires, les ouvriers, les salariés, les autres catégories sociales que celles des hauts et beaux parleurs. C'est toute une histoire. Et elle est passée, je le disais, par la radio, la nôtre, et aussi par des radios qu'on disait à l'époque, dans les années 70, les radios libres ou les radios pirates. Et l'une d'elles, il y en a eu de nombreuses aventures, a laissé un souvenir ambigu, à la fois étonnant, formidable, et une certaine tristesse sur la fin de cette radio. Cette radio s'appelait Lorraine Cœur d'Acier. Elle était implantée à l'est de la France, à Longwy, et elle était en lien. Vous allez le découvrir pour certains, d'autres, ça va leur évidemment éveiller des quantités de souvenirs, avec la destruction des emplois dans la sidérurgie et les mines autour de Longwy en 79, décidé par le gouvernement Giscard, enfin le président de la République était Valéry Giscard d'Estaing et son ministre c'était Raymond Barre. Ça a été des luttes terribles, ça a été des moments terribles de notre histoire qui continuent aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'en finit pas avec cette destruction organisée, voulue des emplois et de l'industrie dans notre pays. Ça, c'en était l'inauguration extrêmement brutale. Et là-dedans, il y a eu cette radio qui s'est fait entendre d'abord dans la lutte, pour la lutte soutenue et voulue par la CGT. Et ensuite, il y a une aventure singulière. Les habitants de la région, avec des journalistes venus de Paris, en ont fait une radio de la parole pour tous. De la parole de tous, mais pas dans le désordre, pas dans la pagaille, mais organisé, structuré. Ça a donné une aventure tout à fait étonnante qu'on avait un peu oubliée. Et voilà-t-il pas que trois plus jeunes, autour de 30 ans, se sont mis à travailler là-dessus et à sortir un document tout à fait formidable qui s'appelle « Un morceau de chiffon rouge » qui sort ces jours-ci avec à l'intérieur 5 disques construits sur les archives de cette radio de Lorraine Cœur d'Acier, plus un film. Et on n'est pas peu fiers à la base, si j'y suis, que l'un des instigateurs de ce travail soit Raphaël Moutarde. Vous avez entendu ce nom pendant des années. C'était un excellent équipier de la base, si j'y suis. Et on n'est pas peu fiers qu'il soit dans le coup. Mais il n'est pas seul. Autour du micro de la base, si j'y suis, il y a Marcel Tria, le réalisateur et journaliste, qui, vous allez voir, qu'il a été un protagoniste important. Michel Olmi, qui était secrétaire général de la CGT. Il y a Alain Delmas, conseiller économique à la CGT, Ingrid Hayes, qui est une historienne, qui est à la base de ce travail, qui est une jeune femme très pointue sur ce sujet, et Pierre Baron, qui est un des, lui aussi, acteurs de cette histoire et instigateur de ce que ferait. C'est un moment de radio, c'est de la radio dans la radio, et c'est jusqu'à 16h dans la basse. J'y suis auparavant. Encore quelques-uns parmi les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Gistu au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, vous faites référence dans votre émission à L'éloge de la fuite, c'est de Henri Laborie, mais Henri Laborie n'a pas fait que ça. Il a inventé le tranquillisant genre Prozac pour pouvoir apaiser des gens subissant le stress. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en réponse à l'auditeur qui dit que le Mélenchon devrait la fermer, parce que sinon la gauche n'est pas prête de repasser. Je veux bien, mais j'aimerais autant que Hollande l'ouvre, mais de façon nette, précise et pas verbeuse. Et sinon aussi, Jean-Marc Ayrault était au MEDEF, mais il n'y avait pas que Jean-Marc Ayrault, il y a eu aussi un discours de BHL au MEDEF. Salut.
Salut à tous les AMG de là-bas si j'y suis dans le Tarn et l'Aveyron. Le jeudi 6 septembre à 20h30 au bar d'Alban chez Marco, projection d'un film documentaire de Sophie Le Gall sur la téléphonie mobile, avec les éclaircissements de Patrice Canal, technicien d'antenne relais jusqu'en 2007. Vos questions et réflexions géniales autant que modestes seront bienvenues le jeudi 6 septembre à 20h30 au Café Repère chez Marco à Alban, là-bas dans le Tarn. Avec ou sans portable. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Demain, mercredi 5 septembre, à 19h, le repère de Tréguier dans les Côtes d'Armor reprend ses activités. Et pour démarrer cette nouvelle saison, nous vous invitons à venir découvrir le mouvement Slow Food. La soirée sera animée par des membres de Slow Food France. Et ça a toujours lieu au Café L'Aigle Noir, 17 rue Pelletier à Tréguier, dans le Trégor. À demain.
Dans le prolongement de ton émission de vendredi, Daniel, voici encore quelques nouvelles de l'espace. D'abord, on relèvera le choix de François Hollande qui, une semaine après la mort de Neil Armstrong, choisit pour la rentrée des profs de se rendre dans le collège Yuri Gagarin de Trappes. Je crois qu'à travers ce choix, le président de la République envoie un signal fort à la gauche. Ensuite, une coïncidence que malgré les circonstances, on ne pourra manquer de juger amusante. Toujours une semaine après la mort de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, on apprend la mort de Sun Yung Moon, le fondateur de la secte Moon. Un type qui a tenu 92 ans, mais qui, sans doute à cause du nom qu'il portait, Moon, n'a pas survécu à la mort d'Armstrong. C'est extraordinaire, non ?
C'est parti, la pause musicale, Léonard.
Réveille-toi.
Il est effondré derrière son magnétophone. C'est une catastrophe aujourd'hui, Léonard.
Oui, c'est parti. Parti.
Ah bon, formidable. J'ai rien dit, Léonard.
Par exemple, vis-à-vis des immigrants, oui. Il fut un temps qui n'est pas si vieux que ça, parce que ça date tout juste avant de la radio. J'étais dans un bar en train de boire un verre. Il y avait un enfant qui venait boire un verre à côté de moi. J'avais les poils sur les bras qui se redressaient. C'est des gens que je n'aimais pas.
Qu'est-ce qui t'a changé ça?
Ben, c'est de les voir venir eux-mêmes à la radio, expliquer leur vie chez eux. Comment est-ce qu'ils vivent chez eux, les répressions qu'ils ont chez eux. Et ce qu'on ne sait pas, les répressions qu'ils ont en France aussi.
Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz en modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Un morceau de Chiffon Rouge, une aventure inédite d'une radio.
Flight number 2, arriving from...
J'avais entendu causer un petit peu de Lorraine Cœur d'Acier.
Non, je sais que vous êtes à peu près la seule radio libre tolérée par le pouvoir, finalement. Je ne peux pas vous emmerder là d'entrée, mais là je m'inquiéterais parce que
on est un petit peu brouillé avec
vous. Salam alaikum. Oulan, غادي نستمعوا للنقاش اللي غادي يوقع مع الاخوان العمال المهاجرين بستوديو Lorraine Cœur d'Acier.
J'apprends à l'instant qu'on nous entend à Strasbourg et à Reims, c'est bien ça, Philippe?
Oui, oui, on nous entend très très bien à Strasbourg et à Reims.
Alors vous voyez, monsieur, les accouchements, ça, c'est en retard tout ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille maintenant, je ne voudrais pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Vous comprenez?
Le saut à la hauteur de la pensée. On a 8 pattes s'il faut courir. On a 10 bras s'il faut faire front. On est tout enraciné quand il s'agit de tenir. Jamais battu, toujours revenant, nouveau revenant. Tandis qu'apaisé, le maître du clavier feint le sommeil. Tâche. Tâche pour obnubiler, pour renaître.
Lorraine Cœur d'Acier, 99 MHz. Dans la journée, on va changer de fréquence, ça sera 102 MHz.
Alors faites bien attention, prévenez vos copains, vos voisins, etc. Je crois qu'on restera à 102, enfin j'espère, si la technique arrête de plaisanter avec les fréquences.
La radio devrait être non seulement quelque chose qui émet, mais quelque chose qui reçoit, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, mais le mettre en relation avec les autres. Ce souhait était celui d'un certain Bertolt Brecht dans sa théorie de la radio. On oublie qu'il y a eu des théoriciens de la radio et que Bertolt Brecht en fut un qui avait ce souhait que l'auditeur ne soit pas passif, mais intervienne et parle. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça semble un peu une évidence, encore que, l'auditeur n'a pas forcément la place que Brecht souhaitait et imaginait, mais aujourd'hui, les auditeurs sont plus présents que jadis dans les émissions et sur les antennes, notamment, évidemment, dans l'émission modeste et géniale qui s'intitule « Là-bas, si j'y suis ». Mais il y a une histoire à cela, à la présence populaire, à la présence des gens, comme on dit, des gens ordinaires, sur la radio, et notamment au cours de l'aventure des radios libres dans les années 70. Pour les jeunes générations, il faut rappeler que la radio, dans ces années-là, était un monopole. Il y avait un monopole de la radio et de la télévision. Et puis au cours des années 70, on a vu apparaître, de manière maquisarde, de manière subversive parfois, un certain nombre de radios dites libres en Angleterre, en Italie et en France. On sait comment tout ça s'est terminé en 1980 par la reconnaissance de ces radios, la fin du monopole qui a été un éclatement formidable d'expression radiophonique assez rapidement récupéré par, eh bien, on va dire, le grand capital. Mais à cette époque-là, dans ces années 70, ça a été une aventure. Et une aventure qu'on retrouve dans un coffret qui sort ces jours-ci, un morceau de Chiffon Rouge. Celle-ci, c'est une aventure singulière. On l'a entendu dans les échos qu'on vient de vous présenter. C'est celle de la radio de Lorraine Cœur d'Acier. Ça a été une aventure radiophonique, mais aussi avant tout un moment des luttes sociales particulièrement violents et névralgiques dans notre pays, dont cette radio a été l'écho et le témoin. Ça a été aussi une aventure qui voulait donner la parole aux gens de cette région de Longwy. Alors, ça a été un grand moment, et puis peu à peu oublié, et voilà qu'une bande de jeunes, dont un qui est ici, issu ancien de la base, j'y suis, Raphaël Moutert fait partie, ont voulu remettre tout ça en scène, fouiller dans les archives, et présenter aujourd'hui ce coffret avec quatre disques.
Cinq disques et un film.
Cinq disques et un film, où on retrouve donc les quelques extraits de cette histoire radiophonique qui a duré quand même assez peu de temps, du 17 mars 1979 au 5 juillet 1980. Cette date est très importante. Alors autour de moi, j'ai des témoins de l'époque, j'ai ceux qui ont été l'un des animateurs. Michel Olmy, qu'est-ce que vous faisiez exactement à ce moment-là ?
Bon, j'étais d'abord ouvrier dans la sidérurgie, après je suis passé permanent syndical, secrétaire de l'Union locale CGT de Longwy en 1974, donc quelques années avant les événements.
Comment ça s'est présenté cette histoire de radio ? Est-ce qu'on peut d'abord donner une idée du moment historique sur le plan des luttes, sur le plan de ce qui arrivait à l'époque à la sidérurgie ? Qu'est-ce qui se passait à Longwy à cette époque-là en 79 ?
C'était le grand coup de massue en décembre 78, ça a été l'application du plan d'Avignon en 1977 de procéder à la liquidation de la sidérurgie dans notre bassin. Ça a été l'annonce de 6800 suppressions d'emplois et en fait l'arrêt définitif des usines. Donc il y a eu tout de suite une montée des luttes qui a été à la fois prise par les ouvriers dans les usines, mais aussi, et c'est ça qui a été la force de ce mouvement, reprise par toute la population qui était directement concernée par les suppressions d'emplois. Quand la sidérurgie disparaît à Longwy, c'est donc tout un bassin qui est concerné. Et on revoit ça encore aujourd'hui, plus de 30 ans après. On voit à Florange, où ils sont dans la même situation, en Liège, à Liège, en Belgique, etc. C'est la montée des luttes.
C'était le début de la désindustrialisation.
Oui, voilà. C'était qu'avait déjà été quand même engagé avant. Mais ce qui a révolté les gens, c'est la brutalité. Parce qu'on coupe le saucisson, on arrête une installation, on arrête une autre. Là, ils étaient arrivés au bout. On savait que c'était pour raser complètement le bassin de Longwy. Il y avait actuellement trois grandes usines. Ça faisait 16 000 emplois. Usine Or, Cochry-le-Rayon et l'usine de la Chière. Donc, on voit bien toutes les conséquences. Aujourd'hui, tout est rasé. Il ne reste plus rien.
Ingrid Hayes.
D'un certain point de vue, il était déjà tard à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait eu une succession de plans depuis une quinzaine d'années, une sidérurgie française qui était très en difficulté dans le contexte international, avec une concurrence ravivée, etc., etc. Je pense que ce qui fait la brutalité, c'est que pour la première fois, il y a des licenciements secs. Ce qui, jusque-là, était compensé par les départs en retraite, etc. Mais pour la première fois, il y a en perspective vraiment des gens qui vont finir sur le carreau.
C'est ça. Il faut rappeler quand même que c'était le président de la République s'appelait Giscard d'Estaing et le Premier ministre c'était Raymond Barre. C'était bien
oui,
ça.
Oui.
Alors, quelles ont été les répliques et les luttes ? Et comment est-ce qu'on est passé des luttes à la radio ? Ou comment la radio est rentrée dans la lutte, disons ?
Il y a d'abord une grande manifestation le 19 décembre 78 où la place de Longwy-Barre, on n'avait jamais vu ça, qui était pleine, c'est-à-dire, bon, les chiffres varient selon, selon les sources policières ou organisations. Mais voilà, bon, on a dit 15, 20, 25 000, peu importe le chiffre. Ça convergeait de toutes les localités du bassin. Et là, ça a été le point de départ, vraiment, d'action après coup de poing, d'action parfois violente. Tous les jours, il y avait quelque chose qui se passait. Les responsables syndicaux, dont je faisais partie, nous avons été débordés
par la base.
C'est-à-dire que les gens prenaient eux-mêmes les initiatives. Ils n'attendaient pas un mot d'ordre. Moi, des fois, j'apprenais, j'étais au bureau le matin à l'Union locale, j'apprenais qu'il y avait une action dans la nuit. Personne ne tenait au courant. Est arrivée la marche du 23 mars à Paris, organisée par la CGT, Et bon, la CFDT avait fait sa radio SOS Emploi.
C'était la CFDT qui avait fait la première radio.
La première radio au mois de décembre.
Hein, radio libre, radio interdite.
Une radio interdite, libre. Eux, ils émettaient dans les bois. Bon, ils ont été les précurseurs sur le bassin de Longwy. Et nous, on a été un peu jaloux. Hein. Mais la grande CGT, à Longwy, on était quand même dominant avec un parti communiste fort. Donc on a réclamé, nous, une radio. On n'était pas aussi inventif, on a réclamé une radio clé en main.
Alors les clés sont venues et les mains sont venues de Paris. On a fait venir les spécialistes parisiens.
Les grands spécialistes. Et on a dit, vous nous remettez ça, voilà.
Et parmi les spécialistes qui sont venus de Paris, il y avait Marcel Triat qui est avec nous, et puis Jacques Dupont aussi. Vous êtes arrivé. Alors, il faut bien avouer les choses, vous êtes journaliste. Et vous étiez proche du Parti communiste à l'époque, Marcel,
oui,
non,
oui.
Tous les deux.
Oui, oui,
voilà. Tous les deux. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. C'est parce que vous étiez journaliste ou parce que vous étiez communiste?
Bon, un peu les deux. Et c'est surtout parce qu'on était des militants, c'est-à-dire prêts à répondre à un appel de ce type-là, mais aussi parce qu'on s'était beaucoup intéressé aux radios pirates, comme on disait. On disait radio libre,
c'est
on
vrai
disait
radio pirate. Pirate, ouais, t'as raison.
Ouais. Et moi, par exemple, j'avais fait de la radio pirate à la SFP. On fabriquait des émissions avec des techniciens de la SFP, qui étaient vraiment le temple du monopole. Et on diffusait sur le toit de la SFP. On s'amusait, quoi. Hein. On avait, bon. Et puis j'avais fait un projet de radio municipale
à Montreuil.
À Montreuil, voilà. Donc j'étais tout à fait prêt, quoi. Je demandais que ça, j'en mourais d'envie, quoi. Voilà.
Et c'est ainsi que le 17 mars 1979, on a pu entendre ceci.
On peut y aller ? C'est parti.
17 mars 1979, première émission de Lorraine Cœur d'Acier.
Petit problème.
Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir.
Ça ne passe plus là.
C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la, et faites-la écouter.
Alors évidemment, c'est un document magnifique. Comment ça s'est fait entre la CGT qui voulait faire passer ses messages de lutte, etc., et puisque cette radio est devenue, c'est-à-dire une suite formidable de témoignages et effectivement d'expressions des gens... Oui, libres. Et encadré quand même, parce que vous apportiez votre professionnalisme de journaliste qui s'est parfaitement emboîté avec l'envie des gens de s'exprimer, une envie qui était évidemment augmentée par cette situation de lutte sociale, mais fait une envie générale de s'exprimer. Et entre cette aspiration à l'expression et l'encadrement que vous avez fait, ça donnait une réussite. C'est-à-dire que dans ces années-là, on se souvient, enfin pour ceux qui y étaient, il y a eu une énergie formidable dans les années 70, mais beaucoup de ces énergies ont été perdues, sont un peu enfoncées dans les marécages, faute d'un minimum de discipline et d'organisation. Et là, la chance a été entre cette énergie, disons, cette envie de s'exprimer, et puis un minimum d'encadrement. Comment ça s'est fait, cette opération ?
Tout s'est décidé au cours de notre première rencontre. Moi, j'ai été convoqué, on m'a demandé de venir, d'aller à Longwy. Voilà, ils veulent leur radio, il faut que tu y ailles. Avec... Alors, j'ai demandé à Jacques Dupont de venir avec moi, puis on était accompagné quelqu'un de la CGT, et on a rencontré les militants de Longwy, la CGT, des durs, hein. C'est italien à combien 50-60% comme Michel. C'est pas des durs de durs, quoi. Hein.
Ah oui, c'est des durs de durs.
Et alors, donc on discute et on leur dit deux choses. On leur dit, voilà, la première chose, on va faire une radio pirate. Au bout d'un quart d'heure, les flics vont arriver, ils vont tout casser.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous faites ?
Ça leur va, ça, non ?
Ils viendront pas.
Ah,
ça, il n'y a pas de problème, ils viendront pas. Mmh. Et effectivement, pendant un an et demi, la radio était installée dans un local de la mairie de Longouillot désaffecté. Et juste à côté, il y avait l'église. L'antenne était sur le clocher de l'église avec l'accord du curé. Le studio, une espèce de baraque.
Un aquarium
avec une grande vitre. C'était toujours plein et comme c'était plein, les gens s'installaient autour pour écouter et participer. Pendant un an et demi, dès que les flics étaient annoncés à 5 km de Longwy, les cloches des églises sonnaient et les sirènes des usines retentissaient. Et là, immédiatement, dans les minutes qui suivaient, il y avait 500, 1000, 2000 personnes autour de la radio. Les flics n'ont jamais pu s'en approcher. Première chose. Oui. Mais il y a la deuxième aussi, c'est qu'on leur a dit, vous voulez une radio libre ? Bah ouais. Alors bon, c'est quoi une radio libre ? Bah une radio libre, c'est une radio où tout le monde parle. Voilà. Bon, on a fait une exception, pas les racistes, quoi. Franchement, le Front National commençait à montrer son mufle, et on a dit non, ça c'est pas une opinion.
Mais il pouvait y avoir des trotskistes, par
tout
exemple.
Tout le monde. Alors ils m'ont dit quoi ? Les socialistes, bah oui. Les autres syndicats, bah oui. La droite, bah, évidemment, si elle veut venir, c'est qu'elle sent que c'est nécessaire de. Bon, vous êtes assez grand pour dialoguer. Si vous êtes pas d'accord, bah vous êtes assez grand pour vous défendre. Les gauchistes. Alors ça, ben oui, les gauchistes aussi, oui, les gauchistes, c'est
ça,
pas
c'était
des...
le pire.
Voilà, c'est pas des ennemis.
Ça, c'était le pire.
Voilà, et donc, là, ils ont dit, il faut qu'on cause. Alors, on est sortis, on a fumé des clopes pendant 10 minutes, on entendait des éclats de voix, là, et puis au bout de 10 minutes, ils nous ont rappelé, ils ont dit, banco.
D'accord, même pour les gauchistes.
Même pour les gauchistes.
Moi, je voudrais demander au plus jeune, à Pierre Baron, qui a l'air d'avoir une trentaine d'années à tout casser, Ingrid Hayes, qui doit avoir à peu près le même âge, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires de vieux, Pierre Baron ?
C'est quand même une histoire passée, on est en train d'évoquer une époque, c'est révolu, cette page est tournée.
Nous, on a été élevés dans les années 80-90. Officiellement, les ouvriers avaient disparu. Voilà, nous, on nous apprenait, enfin, c'était les années tapis, on nous apprenait qu'il fallait devenir des entrepreneurs, etc. Par ailleurs, on se rend compte que même s'ils avaient disparu un peu des écrans radars, avec lié aussi à l'affaiblissement du Parti communiste, à l'affaiblissement des formes de représentation du mouvement ouvrier, ils étaient toujours là. Enfin, il y avait, dans ces années-là, plus d'un tiers des gens qui étaient ouvriers. Enfin, encore aujourd'hui, il y a pratiquement 7 millions de travailleurs, soit un peu moins de 30% des gens qui se lèvent le matin qui sont des ouvriers.
Qui sont des ouvriers, oui, mais qui n'ont plus la force ouvrière de cette époque. Ingrid ?
En tant qu'historienne, pour le dire comme ça, c'est justement le fait qu'on était, me semblait-il, en 79, juste au moment de la bascule. C'est-à-dire, c'est la première grande défaite. Et ensuite, il n'y a eu essentiellement que des défaites. Et c'est le moment où, y compris en termes de représentation et en termes de déstructuration des cohésions antérieures, on passe d'une période à l'autre. Bon, c'est la fin du compromis fordiste, etc., etc. Et c'était d'autant plus intéressant autour de Longwy que c'est aussi un endroit où ça a massivement voté Mitterrand en 81, très massivement. Et en 84, Fabius arrive et il termine le démantèlement. Donc, il me semblait que tous les ingrédients de la période étaient un peu réunis à ce moment-là. Et après, ce qui m'a intéressé une fois que j'ai découvert les archives, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est que le choix du direct, etc., et les compétences des journalistes faisaient qu'on entendait des gens que les historiens n'entendent jamais. Parce que c'est les gens qui n'ont pas accès à l'écrit, c'est les gens, ou alors c'est les gens à la place desquels les directions syndicales ou politiques parlent.
Oui.
Et là, on avait accès non seulement aux gens qui parlaient, mais y compris qui parlaient entre eux,
bon, oui.
Et donc à des archives de ce point de vue assez extraordinaires.
Moi, je voudrais parler d'une dame là qui est venue. J'ai pas entendu son nom. Jean, tu peux nous dire le nom de la dame qui nous a apporté tous ces. Je sais pas comment.
Chiffon rouge.
Chiffon rouge, oui, c'est au nom de LCA.
C'est la maman d'Alain Deveau.
C'est la maman d'Alain Deveau.
Oui, parce que le chiffon rouge, ça a l'air de te surprendre. Peut-être que tu es au courant. Le chiffon rouge, c'est la chanson de Fugain, est devenu un peu un symbole dans le bassin, symbole de lutte dans le bassin. Tout le monde met ça sur son antenne, tout le monde se balade avec un petit chiffon rouge. Et le disque chiffon rouge nous est demandé pas loin de 10 fois par jour ici.
10 fois, c'est le hit.
C'est le hit, ouais.
Un morceau de chiffon rouge. C'est un coffret de 5 CD plus un film qui sort donc ces jours-ci et où l'on entend donc ces 5 disques des choses comme celle-ci.
Union, action, CGT, Union, action. CGT.
23 mars 1979, marche des sidérurgistes sur Paris à l'appel de la CGT qui rassemble 150 000 personnes.
Mineurs de fer ou de charbon, travailleuses et travailleurs et populations de Lorraine, bienvenue également aux enseignants, étudiants, collégiens qui sont ici présents, et en particulier aux 100 jeunes lycéens représentant les comités de coordination permanente de Longwy et de Thionville. Bienvenue à la délégation des commerçants de Longwy, qui ont décidé de fermer leur rideau aujourd'hui pour participer à la marche sur Paris.
Chômage, chômage, ras-le-bol. On commençait à l'entendre dans ces manifs de la fin des années 70. On allait l'entendre dans des quantités de manifs depuis. Donc ça, c'est la manif, en fait, qui était le but de la radio au départ. C'était de préparer les auditeurs à cette manif. C'était ça, le but. Une radio pour une manif.
Oui, c'est
Michel Olmi.
Notre objectif, nous, c'était surtout de mobiliser les gens pour faire que le 23 mars, à Longwy, ça soit un succès. Le reste, la liberté d'expression, auquel j'ai adhéré assez rapidement, est venu bien après. C'était plus les dirigeants syndicaux qui parlaient seulement. C'était les gens, la population, ils rentraient, Il s'assoyait, il parlait.
On va écouter des extraits de ces émissions, donc. Mais je voudrais, Alain Delmas, vous êtes à la CGT, vous faites quoi exactement, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je siège au Conseil économique et social environnemental et j'anime un centre d'études et de recherche économique et sociale dans ma région, en Aquitaine.
Alors, le coffret là dont on parle, un morceau de chiffon rouge, a été préparé avec la CGT.
Oui.
D'aujourd'hui.
Oui, oui. Mais moi, si vous voulez, tout à l'heure, vous vous demandiez aux trentenaires pourquoi. Moi, j'en ai 55, mais LCA, je ne connaissais pas vraiment. On était loin de Paris et de Longwy. Et lorsque j'ai rencontré Marcel, qui m'a raconté cette aventure, lorsque j'ai rencontré les trois mousquetaires,
les trois
Pierre
genoux.
Baron, Raphaël Moutard et Frédéric Rouziès, qui m'ont fait écouter ces extraits, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est plein de modernité. Il faut qu'on transmette ce travail qui a été réalisé, cette expérience fantastique qui allie la réappropriation de la parole, qui casse justement l'idée des experts d'aujourd'hui. Mmh. Les experts, ce sont les salariés. Quand on leur donne la parole, qu'on leur ouvre des espaces de liberté, ils s'emparent de cette parole et ils sont eux-mêmes porteurs des propositions. Et ça, c'est une modernité terrible. Et en même temps, ça résonnait aussi avec tout ce qu'on dit autour des réseaux sociaux aujourd'hui. LCA, c'était un réseau social à Longwy. On voulait que ce travail, c'est pas un travail historique. C'est un travail de mémoire.
Oui. Marcel, raconte-nous comment a été faite la grille. Parce que là, par exemple, il y avait des revues de presse. Hein, par qui s'était fait la revue de presse ?
C'était fait. Et au départ, c'était nous qui la faisions. Mais très vite, ça n'a plus été nous. Ça a été nous et les autres.
Et vous avez tout écouté, les réalisateurs du coffret ?
On s'est basé sur à peu près 150 ou 200 heures qui avaient été sélectionnées par Ingrid, qui a fait un travail un peu sérieux d'historienne, qui avait tout écouté. Et juste pour dire un mot, c'est...
Pierre Baron, oui.
On a voulu fêter, il y a un an, les 30 ans des radios libres. Et le problème pour faire cet anniversaire-là, c'est qu'il n'y avait pas d'archives. Uh-huh. Et là, il se trouve que par hasard, un peu par petite contrainte bureaucratique de la CGT, il y avait une demande que des cassettes soient enregistrées, que toutes les émissions soient enregistrées sur des cassettes et envoyées à la Confédération à Montreuil. Ce qui fait que ça constitue un stock d'archives sur une radio comme celle-là et donc sur cette parole ouvrière, etc., qui est totalement unique. Par ailleurs, c'est quand même une radio de bonne qualité, et techniquement, et ouais, dans l'animation vrai. De l'antenne, etc. Nous, c'est ce qui nous a surpris au départ. Hein.
L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Dans ses cheveux, il y a maintenant des fils blancs. Son visage creusé par les soucis est ridé, comme il a vieilli lui aussi. Il a dû faire des heures supplémentaires pour se sortir d'affaires. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Ses mains usées par les travaux ont soulevé tant de matériaux qu'elles ont pris les couleurs des métaux. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, brisé par les travaux, mais je l'aime tant. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, on va le licencier. Et de protester, on ne veut lui laisser le temps. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Je l'ai vu pleurant, serrant les poings, puis luttant. Il a été embauché ici il y a si longtemps. Et des années durant, il a travaillé pendant que le temps passait doucement. Aujourd'hui, c'est le printemps et il n'a plus 20 ans. Pourtant, il doit lutter pour nos enfants. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Il est fatigué. Et cependant, il lutte durement. Et lui qui en parle si souvent. Et moi qui l'aime tant. Et moi qui désire tant le voir gai comme avant. Mon sidérurgiste, à toi pour le meilleur et pour le pire. On combattra côte à côte pour sauver notre vie. On combattra côte à côte, je suis de ton avis. Oui, c'est notre vie. Oui, on sera encore heureux. Oui, on sera toujours des langoviciens poussiéreux. Et alors, si c'est notre vie, poussiéreux ou pas, il faut la sauver. Ne désespère pas et bats-toi avec moi, pour le meilleur et pour le pire.
Voilà un extrait qu'on peut trouver dans ce coffret, un morceau de chiffon rouge, avec cette voix magnifique.
Et donc c'est une des animatrices dans le studio qui relit ce poème.
Ce poème qui a été fait par la femme de la sidérurgiste.
Voilà, qu'elle n'a pas écrit elle, mais qui le dit.
Ouais. C'est une de ces émissions, parce qu'il y avait les luttes, bien sûr, qui étaient prioritaires, mais il y avait, par exemple, une émission poétique qui était animée par un astide qui était poète. Mais il y avait aussi des émissions littéraires, des émissions historiques. On avait Gérard Noiriel, quand même, qui était prof dans le coin,
ah oui,
qui
oui,
nous
oui,
c'était une émission historique. C'était quand même pas mal, hein, le grand spécialiste de l'immigration. On avait Roger Martin qui faisait une émission littéraire, auteur de Polar et spécialiste de l'extrême droite. Je sais pas, Marcel Donati, qui était une des grandes voix de Lorraine Cœur d'Acier, quand il a enfin consenti à venir parler avec nous, alors qu'au départ il était hostile à cette radio où tout le monde avait le droit de parler, puis peu à peu il a été converti, ça a été un militant de la radio, et le jour où il a commencé à raconter sa vie, on entendait les mouches voler, et ça a duré des heures.
Lorraine Cœur d'Acier, 23, 22, 35. Nous poursuivons notre débat sur la condition féminine.
C'est pas tout à fait la condition féminine, hein, c'est la femme face au travail, la femme mariée, mère de famille face au travail.
Un morceau de Chiffon Rouge, c'est un coffret de 5 disques. Ingrid, il y a beaucoup de, au moins dans la sélection présentée dans le coffret, il y a beaucoup de présence de femmes, des femmes. Je ne sais pas si c'est votre influence dans le choix.
Ça a dû jouer, je suppose. Mais alors, c'est pas une question simple, la présence des femmes, une fois qu'on regarde un peu dans le détail. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait divers groupes de femmes. Mmh. Et ceux qui ont vraiment trouvé leur place à la radio, c'est d'une part une série de femmes qui n'étaient pas militantes, mais qui étaient femmes de sidérurgistes, et qui ont trouvé là un lieu de sociabilité, un lieu de militantisme, etc., qui était leur premier espace militant. Et puis, il y a une série de femmes plutôt issues des classes moyennes intellectuelles, ou étudiantes, profs, etc. Et évidemment, la présence des journalistes permettait aussi, ou aidait un peu cette rencontre sociologique un peu improbable entre, d'une part, des syndicalistes sidérurgistes et, d'autre part, des femmes de ce type-là. Ces deux groupes-là ont trouvé leur place et en ont des souvenirs qui ont visiblement bouleversé leur vie. Et puis, il y a d'autres femmes qui ont moins trouvé leur place, et c'est le cas notamment des femmes syndicalistes, qui ont été là au départ et puis qui ont peu à peu disparu, sans doute en partie parce que les femmes de sidérurgistes, qui, elles, n'étaient pas salariées, donc ne travaillaient pas à l'usine, ont pris autant de place. Mais aussi parce que, évidemment, parce que la vie étant ce qu'elle est, les rapports de domination qui traversent la société étant ce qu'ils sont, les femmes de sidérurgistes se retrouvaient aussi à faire à manger, à assurer une série de tâches d'intendance que les femmes syndicalistes ne jugeaient pas extrêmement positives.
Dans tous les documents là, qu'on peut entendre dans cette suite de CD, il y a un moment très poignant qui est un récit d'une dame qu'on va écouter. Marcel, tu peux dire dans quelles circonstances ?
Au départ, les femmes qui étaient là, elles faisaient, comme le dit Ingrid, la cuisine, le ménage, etc. Peu à peu, on les a poussées à s'occuper de la technique. Elles sont devenues des techniciennes. Et puis un beau jour, elles sont venues nous voir et puis nous ont dit « on veut faire une émission ». Sur quoi ? Ben, sur l'avortement, les accouchements, etc. On a dit « oula, d'accord, bon, allons-y ». Et elles ont organisé leur émission. Et là, ça a été un cri de douleur. Toutes les souffrances subies, etc., depuis des années dans les hôpitaux et tout ça. Et là, on a vu rappliquer en un quart d'heure, une demi-heure, 10, 15 médecins. Et ils sont venus essayer de ramer pour essayer de s'expliquer.
Parce qu'elle mettait les médecins en cause.
Oui.
Le mardi, ça a commencé de plus en plus. Et je faisais tous les lits. Je m'accrochais à tous les lits. Le mardi soir, à 10h10, je suis un peu émue, ça me rappelle tant de souvenirs. À 7h du soir, la sage-femme me coupe les os. À 10h10, vraiment, c'était intenable. Alors,
Oui, allez-y, madame, tranquillement.
Alors, comme je n'en pouvais plus, je n'avais plus de respiration, j'avais absolument plus rien. J'ai crié presque un haut secours. Alors l'infirmière est arrivée, et dans l'état j'étais, elle a fait appel au médecin. Et là, le médecin, au bout de peut-être 4-5 minutes, est accouru, parce qu'il n'habitait pas là. À 10h20, ils m'ont poigné, je vous assure, il y a massage cardiaque, on m'a fait un peu de tout, j'avais des piqûres de tous les côtés. J'avais l'enfant qui se présentait bien à 7h du soir, et à 10h20, il était tout de travers. L'enfant, il s'était déplacé. Au bout de 10 minutes, ils m'ont fait les forceps. L'enfant était là à 10h30. Alors, pour deux jours et demi de souffrance, le docteur a mis 10 minutes pour me l'enlever. Vous comprenez ce que ça représente un peu pour une mère de famille? Ensuite, l'enfant, on m'a mis dans mon lit. Je me suis réveillée seulement le lendemain matin, parce qu'il m'avait certainement piqué, je ne me rappelle plus de rien. J'avais les édredons sur le dos, j'étais inondée de sang. Mon enfant était avec la bave. Il avait un bleu à l'œil. Il avait l'œil fermé, il avait des pattes. Enfin, il était vraiment... Je croyais même qu'il aurait un œil perdu. Mais non, tout s'est bien arrangé. Et l'enfant est là, il a eu 18 ans et demi. Je veux continuer parce que j'ai eu un deuxième problème. 2 ans après, je me suis retrouvée enceinte. L'accouchement était bien prévu pour le jour même. Le docteur me passe la visite, on me renvoie à la maison. À peine arrivée, 1h30 après, j'étais vraiment en train d'accoucher quand je me suis représentée à l'hôpital. L'enfant faisait 3,8 kg. L'enfant est venu, elle a crié, et bien rose et tout. Cet enfant, vous savez où elle est? Je ne sais pas où elle est parce qu'elle est morte, monsieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que cet enfant-là, elle voulait vivre et puis je ne l'ai plus. Et on a voulu me faire une autopsie, j'ai pas voulu, moi. Et quand le docteur, le lendemain, d'abord mon mari était avec moi, on a dit, monsieur, l'enfant est bien, votre femme est bien, vous reviendrez le lendemain. Et lui, quand il s'est présenté le lendemain, il y avait... Moi qui étais dans le lit, vraiment triste, et puis l'enfant dans une boîte. Et cette même semaine, il y en a eu 5, vous entendez, 5 enfants qui sont morts. Écoutez, je suis vraiment... Ça me rappelle tant de souvenirs que j'en ai fait une dépression nerveuse. D'avoir perdu une petite fille comme ça, d'avoir souffert 2 jours et demi après pour avoir mon premier. L'enfant de la deuxième se passait très bien et elle est morte. J'ai vécu quand même. On peut pas mourir comme ça. La mort, elle vient quand elle le dit. J'ai eu d'autres enfants. J'ai une petite fille. J'ai accouché toute seule chez une parente. Ça s'est bien passé. Et j'ai eu 2 garçons à la clinique à Longuyot. Tout s'est très bien passé. J'ai été très bien reçue. Alors vous voyez, monsieur, les accouchements, ça, c'est en retard tout ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille maintenant, je ne voudrais pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Vous comprenez?
On vous comprend très bien, madame.
Je voudrais que les docteurs y comprennent ce que je dis maintenant. Parce qu'on ne peut pas laisser une mère 2 jours et demi dans les souffrances, toutes les 3 minutes, les 2 minutes, à me tordre par terre. Je n'ai pas poussé un cri. J'ai tout eu en moi-même et le cœur, il n'a pas...
Dites, madame, vous avez l'impression que les médecins de l'hôpital dans lequel vous êtes allée les 2 premières fois sont responsables de vos souffrances et du malheur qui vous est arrivé?
Ah oui, entièrement. Parce que si le docteur aurait été là quand... Il m'aurait déjà soulagé déjà la veille. Il devait se rendre compte que j'avais les os du bassin qui se craquaient pas. C'est comme ça qu'on dit normalement. Ça ne se faisait pas l'accouchement. Pourquoi ils ne me l'ont pas enlevé à ce moment-là? Pourquoi on n'a pas fait le forceps juste à ce moment-là? Au lieu d'attendre le lendemain soir. Pourquoi?
Voilà ce qu'on pouvait entendre sur Lorraine Cœur d'Acier, la radio de Lorraine Cœur d'Acier, en 1979-1981, témoignage par téléphone bouleversant au cours de cette émission. Donc, Marcel Tria, on a entendu votre voix de cette époque-là, la voix de cette époque-là, devant ce témoignage, libérer la parole... c'est ça, libérer la parole. Oui. C'est recevoir cette parole-là. La libération des femmes dans les années 70, ça a été les étudiantes, les jeunes femmes des classes moyennes qui brûlent leur soutien-gorge. Mais là, ça a atteint la France profonde, ça a atteint la France ouvrière. Et c'est ça que votre radio a fait surgir. Donc là, tout d'un coup, on voit la puissance que la radio peut avoir. et a pu avoir.
Il y a comme Ingrid. Ça 3 à 4 femmes qui interviennent les unes derrière les autres en décrivant le même type d'événements et de souffrances. Et puis à un moment, il y en a un qui dit « Bon, écoutez, on peut peut-être passer aux choses sérieuses. » Alors, ce n'est pas un journaliste en l'occurrence. Bon, d'accord, ça va, on a compris. Bon, maintenant, passons à autre chose.
C'est un médecin.
Et puis, progressivement, on arrive effectivement à passer à autre chose et ils arrivent à recanaliser. Mais il y a une prise de pouvoir pendant un temps quand même assez long. Alors, c'est assez rare, y compris à Lorraine Cœur d'Acier. Hein, c'est-à-dire, avec cette force-là, c'est l'exemple qu'on prend souvent parce qu'après tout, il n'y en a pas tant que ça. Alors, peut-être aussi préciser, on est en avril 79, donc un mois après le lancement de la radio. C'est quand même extraordinaire que des médecins aient à tel point reconnu la centralité de la radio à Longwy, qui se sont déplacés pour venir expliquer qu'ils avaient été injustement mis en cause, etc. etc. On est à la radio de la CGT, à Longwy, en lutte, quoi. C'est quand même... Ouais.
Michel Olmy, vous disiez tout à l'heure, oui, les machos que nous étions, etc. Là, les machos, vous êtes battus en brèche, là, vous vous écrasez.
Ah ben, moi je dois dire que je suis pas le seul, hein. Cette radio m'a permis de réfléchir sur beaucoup de choses. Également d'avoir une réflexion sur les rôles respectifs des hommes et des femmes. Bon, j'ai pas joué quand même, je vais pas dire que j'ai été converti tout de suite, personne ne me prendrait au sérieux, hein. Il m'a fallu du temps avant que je commence à m'intéresser aux problèmes ménagers. Moi, avant, je rentrais, je disais, moi, je suis à la CGT, je travaille 15 heures par jour, donc je ne fais pas le ménage, hein. Ce qui m'a pas empêché une fois de manifester avec les femmes qui disaient, on veut pas rentrer à la maison. Mais là, je jouais mon rôle de secrétaire de l'Union locale CGT de Longwy, mais j'ai manifesté. Mais bon, en rentrant, ma femme m'a dit « T'es quand même gonflé, hein, de... Voilà. »
Bonjour les amis de Strasbourg et de Reims qui nous entendent sur 102 MHz. Ici LCA, Lorraine Cœur d'Acier. Il est 11h05. Alors attention, hein, s'il y a quelque chose sur la cuisinière aussi. Parce qu'il paraît qu'il y a des dames qui nous écoutent et qui oublient l'heure qui passe et qui oublient de faire leur boulot et de préparer le dîner pour les enfants. Alors attention, hein, n'oubliez pas aujourd'hui. Vous ne pourrez pas dire que c'est de notre faute, on a dit l'heure. Hein. 11h05. Hein.
Moins 4.
Bon.
Oui, l'une des clés de l'altercation entre ces femmes qui manifestent, qui témoignent sur leur accouchement et les médecins, c'est qu'à l'époque, on était encore, fin des années 70, sur le thème de l'accouchement sans douleur. « Tu accoucheras dans la douleur », nous disait l'Église. Et on voit que les femmes n'étaient pas d'accord et ça passait par une mise en cause des médecins. Merci à tous, c'était un morceau de Chiffon Rouge, la première partie, car il y a une seconde partie demain. Merci à toutes et à tous, toutes les voix qu'on a pu entendre, ainsi qu'à Marcel Tria, Michel Olmy, Alain Delmas, Pierre Barou, Ingrid Heiz et Raphaël Moutarde. Donc le coffret Radio LCA. Comment se le procurer, vous vous demandez? Eh bien, vous le saurez en allant sur le site de France Inter. Les informations vous seront données à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Sandrine Laurent, Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, assistée de Bertrand Chometon et Antoine Chao pour le montage, et de Pierre-Yves Bulto, Solène Cordier attend quant à elle vos messages sur le répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Pas de pub sur Inter aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h donc pour la deuxième partie d'un morceau de Chiffon Rouge. À demain donc 15h. Je vous laisse pour les infos avec Chloé Cambrelin. Salut!
Rencontres et sommets tous azimuts pour lutter contre la crise de la dette. François Hollande a déjeuné avec le chef du gouvernement italien, Mario Monti. Et depuis Rome, le président veut rassurer. Nous sommes en très grande convergence avec l'Allemagne pour régler les problèmes de la zone euro, assure le chef de l'État. François Hollande qui engage publiquement la Banque Centrale Européenne à prendre des mesures pour réduire l'écart entre les taux auxquels empruntent les différents pays de l'Union monétaire. « Je vais relativement bien », unique déclaration de Michel Néret à son arrivée il y a une heure au conseil de discipline de la police. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise comparaît cet après-midi pour s'expliquer devant ses pairs. Déjà mis en examen notamment pour trafic d'influence et association de malfaiteurs, Michel Néret risque la révocation. Un acte incompréhensible, désarroi du président d'Emmaüs en Isère après l'attaque d'un centre Emmaüs ce matin près de Grenoble. Trois hommes armés et cagoulés ont surgi à l'ouverture. Ils ont menacé l'un des gérants pour se faire remettre le contenu du coffre-fort, soit environ 6 000 euros. La communauté d'Emmaüs de Grenoble avait déjà été victime d'une agression à la fin du mois de juillet. Et c'est en fin de journée que la justice de l'île Maurice doit se prononcer sur le sort d'une Française de 25 ans, emprisonnée depuis un an pour détention de Subutex, un substitut à la drogue. Et des comprimés découverts dans les bagages de la jeune femme et cachés à son insu, selon un collectif de soutien. Cette jeune Française risque 60 ans de prison et son cas n'est pas isolé, Christophe Vincent.
C'est à son arrivée sur l'île, il y a un an, que les policiers mauriciens ont cueilli Aurore Grosquoisy. Dans ses bagages, ils ont trouvé 1680 comprimés de Subutex cachés dans deux boîtes de gâteaux. En France, ce substitut à l'héroïne est un médicament remboursé. À Maurice, c'est un stupéfiant revendu 50 euros le comprimé. De sa cellule, Aurore dit qu'elle a servi de mule et accuse son ex-petite amie d'avoir farci ses bagages. Farid Dekli, du collectif des familles victimes du trafic.
Il y a l'intérêt pour des personnes qui trafiquent, mais ce n'est pas le cas de ces jeunes femmes. Tout le monde est convaincu par leur innocence, même les autorités policières mauriciennes en off reconnaissent leur innocence. Donc c'est bien pour ça qu'on s'oppose au discours tenu par les autorités françaises en disant que c'est une simple affaire de droit commun. Non, au contraire, ce sont les victimes expiatoires d'un conflit franco-mauricien qui dure depuis 15 ans.
Trois autres Françaises sont détenues à Maurice pour possession de Subutex. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Les Québécois vont aux urnes aujourd'hui pour des législatives anticipées. Après 9 ans de pouvoir libéral, les indépendantistes sont donnés grands favoris.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film.
Ça
il nous renvoie
ça
une image.
Échappé.
Théâtre. Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
16h04 sur France Inter, et c'est bien l'heure du Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Chloé. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que la rentrée des classes n'a pas été trop dure, ni pour les parents, ni pour les enfants. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a eu une vie heureuse, c'est Darius Milhaud, qu'on célèbre à juste titre maintenant, parce qu'il aurait eu 120 ans, et il était né à Marseille, mais originaire d'Aix-en-Provence, il y tenait beaucoup en 1892 donc, et on va faire une belle exposition, on va pouvoir aller à Aix-en-Provence, voir des objets qui lui appartenaient, évoquer sa mémoire, et ce sera du 10 septembre au 21 octobre, c'est organisé par l'Office du Tourisme des Pays d'Aix. Et je vous encourage à y aller si vous êtes dans cette belle région. Et aussi, à le regarder à la télévision, il y a un DVD qui est sorti d'ailleurs d'Arius Milhaud et sa musique. De la Provence au monde, tout simplement parce que s'il se revendiquait comme Provençal, il disait d'ailleurs la Provence va de Constantinople à Rio, avec Aix pour capitale, bien entendu. Un homme du soleil en général, quoi, qui a eu une vie heureuse, il le dit, mais en même temps courageuse. Parce que sa santé était fragile, quelquefois il restait alité. Il allait aussi à d'autres moments en ambulance à ses propres concerts. Bref, il a lutté avec l'aide de Madeleine, sa femme, sa chère épouse, qui a vécu 106 ans, qui était comédienne et très très bonne musicienne aussi. Darius Milhaud, musicien français, provençal avant tout. Voici Vif, tiré justement de sa suite provençale. vif tout simplement, vif comme l'esprit de Darius Milhaud qui a composé cette suite provençale. Et nous avons entendu un orchestre du Nord tout à fait merveilleux et universel qui peut jouer aussi ses musiques bien ensoleillées. L'Orchestre National de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus qu'on va retrouver maintenant dans Le Bœuf sur le Toit. Alors là, le soleil est encore plus présent, en tout cas par son intensité, puisque nous sommes au Brésil. Et au moment de la Première Guerre mondiale, Darius Milhaud, qui ne pouvait pas combattre en raison de sa santé, a été emmené par Paul Claudel, le grand écrivain, comme secrétaire. Claudel était, curieusement, ambassadeur à Rio de Janeiro. Alors évidemment, l'émerveillement devant cette baie extraordinaire, le pain de sucre, et puis ces danses, au moment du carnaval, Darius Milhaud est arrivé à ce moment incroyable où tout le monde s'agite, tout le monde bouge, on fait des acrobaties sur des talons effrayants, on s'habille de robes très sexy, de beaux costumes, enfin bref, vous connaissez cette folie passagère et indispensable. Et il a noté des sambas, des machiches aussi, des danses qu'il a entrecoupé de ses propres musiques dans Le Bœuf sur le Toit.